Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. C'est Georges et je vous propose tous les mardis mon émission intitulée La 101e, émission consacrée au jazz traditionnel. Je procède à un certain nombre de recherches pour en étoffer les commentaires et j'ai remarqué que dans les documents consultés, il était souvent fait allusion à la religion du vaudou. Alors je me suis posé la question suivante. Y a-t-il un lien subtil et secret entre cette religion et le jazz ? Le destin, qui fait parfois les choses très bien, a placé sur mon chemin il y a quelques années un personnage qui est devenu un de mes meilleurs amis. Cette personne, Monsieur Raymond Agnessan, est spécialiste des masques africains au CNRS à Paris. Il est passionné par le jazz traditionnel puisqu'il a été chroniqueur radio pour cette musique pendant longtemps. Il a d'autre part une connaissance profonde de la culture d'Afrique noire puisqu'il est lui-même ivoirien. Et il a eu la gentillesse de me proposer un exposé sur ce sujet qui me tracasse, qui me perturbe. Ce que j'ai accepté, bien entendu, avec grand plaisir, car je sais, pour l'avoir déjà écouté, que Raymond Agnessan va nous distiller un grand nombre d'analyses, de faits historiques, d'anecdotes et autres souvenirs de grande qualité. Pour mener à bien cette interview, je me suis entouré d'un couple de consultants. Consultants, ça fait bien, ça fait très sérieux, très moderne. D'un couple de consultants de haut niveau, bien sûr, et que j'ai la chance de pouvoir classer également parmi mes meilleurs amis. Je suis donc gâté aujourd'hui et c'est un véritable plaisir pour moi que de faire cet enregistrement. Il s'agit donc en l'occurrence de Madame et Monsieur Pascal. Madame, Rose de son prénom, anglo-irlandaise, là j'ai jamais pu connaître le pourcentage exact, ça fait partie des mystères comme les triangles des Bermudes. Madame, donc anglo-irlandaise, professeure d'anglais retraitée, traductrice d'anglais, y compris de textes anciens ou complexes, donc des blues. Alors là, je fais une petite parenthèse. Rose, je te remercie tout de suite pour toutes les traductions que tu as faites, qui sont absolument formidables. Et ça a dû être un gros travail.
Tout le plaisir était pour moi.
Je reviens à ma petite présentation globale. Monsieur Pascal, Gary de son prénom, architecte à la retraite, clarinettiste de jazz amateur, et tous deux sont de grands amateurs et passionnés par le jazz traditionnel. Ils ont en plus une grande connaissance de la Nouvelle-Orléans pour y avoir été souvent. Là également, quelle somme de souvenirs de tous ordres nous attendent. Et pour réaliser techniquement cette émission, cet enregistrement, j'ai l'aide précieuse et indispensable de M. Mathieu Rohard, le jeune, sympathique et compétent technicien de Radio-Calade. Sans lui, aux manettes, eh ben cette interview ne serait qu'une aimable conversation de salon. Alors maintenant, amis auditrices, amis auditeurs, on va rentrer dans le vif du sujet et je m'adresse tout de suite à mon ami Raymond Agnessan. Raymond, peux-tu... Bonjour à tout le monde d'abord, hein, j'ai oublié, excusez-moi, enfin, j'en sais rien si j'oublie. Raymond, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est que le vaudou ? La date d'apparition, à peu près, un historique, la localisation, la philosophie, le culte des ancêtres, présence d'esprit dans tout ce qui est matériel, animaux, objets, éléments de la nature. En un mot, quelle est la spiritualité du vaudou ? Je te laisse la parole, Raymond.
Merci. Bonjour, auditeurs de Radio-Calade. Alors, le vaudou dans le jazz n'a pas été beaucoup abordé. Soit par... je ne sais pas pourquoi. En fait, pourtant, c'est une religion qui inonde la culture noire, donc dans le jazz aussi. Alors, vous parliez... Je ne sais pas s'il faut, te dire tu ou quoi.
Oh, tu peux.
Alors, tu me demandais, comment dirais-je, qu'est-ce que c'est que le vaudou ? Alors, le vaudou ressorti au champ du paganisme. Donc, ce sont des religions païennes. Donc, qui sont un petit peu partout. C'est un petit peu les cousins, la cousine, bien le cousin du chamanisme. Enfin, toutes les religions qui étaient là avant que ne sortent les religions dites révélées, les religions monothéistes. Dans le vaudou, il y a une branche qui est issue de la côte du Bénin, du Nigeria, qui a pour animal totémique le python. Voilà. Donc on rentre un peu dans l'herpétologie, mais bon, ça c'est pour autre chose. Et puis il y a une autre branche qui est issue des royaumes du Congo, donc avec pour animal emblématique le léopard. Voilà. Donc on va voir que dans la Nouvelle-Orléans, ces deux animaux vont se substituer. Par exemple, le léopard va devenir le chat. Et on va toujours parler, je pense qu'on va jouer un morceau sur les os du chat. Parce que le chat, le python dans le royaume du Bénin, dévorait les rats qui dévastaient les cultures. Le chat, à la Nouvelle-Orléans, va essayer de manger les rats qui sont dans les maisons insalubres des Noirs américains. Ils vont aussi le prendre comme animal emblématique. Et puis ensuite, les os du chat, la peau du chat, va servir à des protections magiques. Alors, l'apparition de ces religions date un petit peu des sociétés lignagères. Alors qu'on ne peut pas, ici, je pense qu'on ne peut pas dater les religions lignagères qui sont en Afrique. Ensuite, sont venus se poser les religions, les royaumes avec des grands rois. Donc, on a fait une sorte de mélange entre l'animal totémique et le roi qui est devenu une divinité. C'est ainsi qu'on est arrivé au vaudou. Alors, ensuite, la philosophie de cet animisme. L'univers est constitué de nature et de culture. La nature est faite de trois règnes. Le règne animal, le règne végétal et puis le règne minéral. Puis ensuite, on a l'homme à côté. La nature fait vivre l'homme et l'homme protège la nature. Donc, il y a une sorte de centaure. Voilà. En fait, ils sont indissolublement liés. Aujourd'hui, on dirait l'écologie. Mais déjà, c'est que les hommes protégeaient la nature parce que la nature les fait vivre et les fait grandir. Voici en gros ce qu'on peut dire du vaudou en Afrique.
Donc, merci pour ta présentation rapide, Raymond. Je crois donc maintenant on va pouvoir passer aux enregistrements musicaux. Là, on a un blues qui est superbe, qui s'appelle Black Cat Pawn, mais je vais laisser la parole à Madame Pascal.
Oui, bonjour. Oui, Black Cat Pawn, effectivement, on retrouve tout ce qui entoure le chat, et en l'occurrence le chat noir. Et c'est une blues qui a été faite en 1961 par Lightning Hopkins. Et donc, il faut savoir d'abord que l'os du chat noir est un type de charme, un gris-gris, qui apporte la chance et est utilisé dans la tradition de voudou. Il est censé assurer une variété d'effets positifs, tels que l'invisibilité, la chance, la protection contre la magie malveillante, la renaissance après la mort et le succès en amour. Et le dernier arrive très très souvent dans les blues. Le chanteur se plaint dans cette chanson que sa copine lui a volé son gris-gris porte-chance, autrement dit son os de chat noir. Et il dit maintenant que le bon temps pour lui est parti avec le gris-gris. Et il part pour de bon à cause du sale caractère de sa compagne qui a tout volé. Voilà, donc je pense qu'on peut écouter la chanson. Je vais peut-être traduire simplement deux ou trois petites phrases essentielles au départ, avant de l'écouter, Donc, parfois, je cite, « Parfois, je crois que tu as trouvé mon os de chat noir. » Bon. « Salut bébé, tu sais que je pars pour du bon. Je ne reviendrai pas tant que tu ne changes pas ton sale caractère. » Je ne reviendrai pas tant que tu ne changes pas ton sale caractère. On dirait que quelqu'un m'appelle pour dire que le temps d'autrefois est fini. Donc c'est bien triste pour ce monsieur.
Voilà ce superbe Black Cat Bone qui est interprété par un très grand chanteur de blues, Lightning Hopkins. Maintenant, on va revenir aux questions à poser à mon ami Raymond, parce que nous, les Européens, le vaudou, pour nous, c'est un petit peu mystérieux, bien entendu, et il y a des réactions. Je voudrais savoir quelles sont globalement les réactions des Blancs sur cette religion. Est-ce que c'est une religion satanique? Est-ce que ça donne lieu à des orgies? Est-ce qu'il y a eu des sacrifices humains, du moins autrefois? Comment est-ce que les Blancs, globalement, les Européens, considèrent le vaudou?
Je dirais que les sacrifices humains ont toujours eu lieu, même je pense que le Christ était aussi un sacrifice humain. Mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème est dans un principe qui s'oppose. Voici ce que disent les adeptes des religions monothéistes. Ils disent que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Les polythéistes que je suis disent « Tous les dieux sont égaux devant les hommes ». Alors, pourquoi est-ce que justement cette égalité ne se vérifie pas sur le terrain? C'est parce qu'en fait, on aurait dû nous comprendre que les Blancs disaient, comme on dit, bon, tous les dieux, comment dirais-je, non, les dieux, du moins, les hommes qui adorent ou bien qui prient notre religion sont égaux devant Dieu. C'est ça qu'il fallait qu'on comprenne. Donc il y a une sorte d'ellipse. Et nous, on devait aussi leur dire que tous les dieux qui existent sur terre et ailleurs sont égaux devant les hommes. Et voici ce qui devait se passer. Alors, puisque justement les hommes trouvaient qu'ils étaient supérieurs à d'autres, ben, ils ont tout de suite rehaussé leur religion, leur culture et haï les autres. C'est tout. C'est un combat entre le monothéisme et le polythéisme. Terminé.
D'accord, c'est bien. Alors maintenant, on va peut-être passer également à un autre morceau de musique qui s'appelle Voodoo Woman. qui est très intéressant, par G. McChan. Et je repasse la parole à Madame Pascal.
Oui, là, dans Voodoo Woman, on a effectivement quelque chose qui est un petit peu amer à part, de la part du chanteur. Il a apparemment une copine de New Orleans. Et entre parenthèses, on va trouver New Orleans un petit peu tout le temps parce que c'était le centre reconnu dans le blues pour le voodoo. Donc, le chanteur se rend compte qu'elle essaie de lui jeter un sort avec toutes sortes de sortilèges voodoo. Elle a, par exemple, creusé un trou derrière sa porte dans lequel elle a mis une poupée ressemblant donc au chanteur, dans lequel elle a piqué des épingles. Donc, il a pris peur et décide de la quitter avant qu'elle ne le transforme en zombie. Et cela étant dit, le mot « zombie » est déjà intéressant parce que c'est un mot créole qui veut dire « esprit » ou « revenant » et il désigne également des dieux esprits de tribus africaines. Donc, quelques phrases de cette chanson. « Femme de New Orleans, qu'est-ce que tu me fais? Laisse mon âme, tu essaies de me jeter un sort. La vie dernière, je t'ai vu creuser un trou à côté de ma porte. Tu as fabriqué des petites poupées, elles me ressemblent toutes. Tu les as piquées d'épingles partout. Tu as tout ce dont une femme de New Orleans a besoin, des bouquets d'herbes, des sacs pleins de pierres et mauvaises herbes, donc son panoplie de sorcières. Et il conclut, ferait mieux de te quitter avant que tu me transformes en zombie. »
C'était un très beau morceau que ce Voodoo Woman. Alors maintenant, Raymond, quand j'ai préparé cette interview, j'ai regardé pas mal de bouquins et j'ai constaté, me semble-t-il, une certaine connivence entre la religion catholique et le voodoo. Alors, comme le but de cette interview, on va y arriver dans un moment, c'est de voir quelle a pu être l'influence du voodoo sur la vie des Noirs américains, en particulier ceux qui vivaient dans le sud des États-Unis, en particulier la Louisiane, eh bien, je voudrais savoir, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Louis XIV, dans le Côte-Noir, avait l'article 2 du Code noir qui s'appliquait à tous les esclaves, avait écrit cet article. Tous les esclaves qui seront dans nos îles, bon, ça a intéressé les îles, les Antilles, etc., mais petit à petit, ça a été étendu à la Louisiane. Donc tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Alors, est-ce que cette apparence, apparente connivence entre la religion catholique et le vaudou s'explique ? Est-ce qu'on arrive à plus bien savoir l'influence du vaudou ou l'influence du catholicisme ? On arrive à plus bien savoir où on en est.
Mais d'abord, il faut quand même dire merci à Louis XIV pour, dans son code noir, a permis à ce que les esclaves, une fois qu'ils étaient baptisés, qu'ils partaient à l'église le dimanche, ça donne à leur culture l'après-midi. Ceci aussi a été suivi par les Espagnols et par les Portugais. Et de là est né donc une sorte de jeu de cache-cache ou bien un jeu de miroir. En fait, il y a eu une sorte d'opération de blanchiment des divinités africaines vers les saints catholiques. Parce que les Noirs se sont servis de l'iconographie, donc de l'iconolâtrie des saints. Et ils ont vu aussi qu'on disait que les religions africaines étaient des idoles. Donc ils ont pris l'idolâtrie africaine et ils ont mis ça en rapport avec l'iconolâtrie européenne. Ce qui a donné, comme dans l'iconolâtrie, il y a les images et puis aussi il y a le culte des eaux, on ne fonde pas, on ne bâtit pas une basilique ou bien une chapelle sans y mettre l'os d'un saint, enfin, supposé saint, sous terre. Alors que le vaudou, dans le culte des ancêtres, va toujours dans les cimetières pour prendre les os des ancêtres pour en faire des protections. Donc, os contre os, on pouvait y aller. Image contre image, image des saints contre les figurines, les masques africains, ça pouvait y aller. Donc voilà, on a essayé de rétablir une sorte d'égalité entre les divinités africaines et la religion catholique. Voilà.
On va passer à un autre document musical qui s'appelle Crossroad Blues. Moi, je l'ai défini par un seul adjectif. C'est un morceau qui traduit un grand abandon, un grand désespoir. Je ne sais pas ce qu'en pense ma voisine, Madame Pascal.
Eh bien, oui, je pense effectivement, ce Crossroad Blues, qui veut dire en fait le blues du carrefour, qui était chanté en 1937 par Robert Johnson, c'est très intéressant parce que d'un part, il y a vraiment une des éléments de vaudou les plus forts, et il y a dans le même temps des prières qui sont envoyées au ciel, donc je présume aussi que c'est plutôt chrétien. Je vais essayer de voir un petit peu ces rituels voodoo, donc à propos du carrefour, ont été pratiqués parmi les Afro-Africains du Sud. Les esprits des carrefours ont été amenés depuis l'Afrique aux États-Unis avec l'esclavage. Et dans la tradition voodoo, le diable se trouve au carrefour et c'est un messager au monde des esprits. Et concernant Robert, qui s'appelle Bob Johnson, sa mythologie dit qu'en 1930, dans un carrefour du Mississippi, il a vendu son âme au diable en échange d'être le meilleur guitariste du monde. Et en 1938, après un concert, il a entendu du bruit dehors et est parti en courant, pourchassé par des chiens noirs de l'enfer. Et on revient un petit peu à cette idée de animaux. Il s'est réfugié dans une maison, mais est trouvé peu après en train de mourir, parlant des chiens noirs qui le chassaient. Et ensuite, dans cette chanson, il cherche l'aide du Seigneur en haut pour le libérer de cette promesse, mais sans réponse et ignoré par tous les passants, il sent qu'il meurt. Et là, il demande à ce qu'on dise à son copain musicien Willie Brown qu'il est en train de mourir. Donc, je cite simplement la traduction d'une ou deux phrases. « Je suis allé au carrefour, tombé sur mes genoux. J'ai demandé au Seigneur là-haut, pitié, sauvez pauvre Bob, s'il te plaît. » Et il continue, « Personne ne semblait me connaître, tout le monde m'ignorait. La nuit va me piéger ici. Je crois que je suis en train de sombrer. » Là, il y a vraiment les deux éléments assez clairement dans cette chanson.
Crossroad Blues, merveilleux chanteur que ce Robert Johnson qui a eu une vie absolument tragique. Maintenant, nous revenons au vaudou et on a parlé du vaudou avec le catholicisme, mais j'ai remarqué également, en étudiant cette musique extraordinaire, que les protestants avaient eu une très grande influence sur l'évolution du jazz et en particulier pour la création des gospels ou des negro spirituals. Alors, quel est le rapport, Raymond, entre le vaudou et le protestantisme?
Mais là, c'était un peu plus facile, mais encore plus difficile, parce que le protestantisme n'admet pas d'icône. Alors, ce que les Noirs ont fait, parce qu'ils étaient écartelés, ils étaient bourrelés, comme on dit, ils ont pris la religion protestante donc, comme une religion du salut du ciel qui se voyait, qui était institutionnalisée. Et puis, entre eux, ils avaient la religion vaudou qui réglait leurs histoires de famille, leurs histoires affectives, enfin tout. Enfin, il y avait une religion du ciel et puis il y avait une religion de la terre. Voilà, c'est tout. Et puis, le point qui était bien entre eux, c'était le Holy Ghost. Vous savez, en principe, les Anglais disent « Father, Son and Holy Spirit ». Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les Noirs ont commencé à dire « Father, Son ». Un Holy Ghost. Toute la confusion est là. Holy Ghost, en fait, c'est le fantôme saint. Est-ce que c'est le fantôme des religions monothéistes ou bien si c'était l'ancêtre qui était toujours là, comme un spectre? Voilà.
Merci pour ta réponse, Raymond. On va enchaîner avec un morceau de un blues qui traduit beaucoup, à mon avis, la méchanceté. Il s'appelle Evil Eyed Woman. Alors là, j'ai un accent anglais dégueulasse, excusez-moi, à mes auditeurs, à mes auditrices. C'est pas brillant, mais tant pis. Evil Eyed Woman.
Alors, donc, Evil Eyed Woman, chantée en 1953 par Terry Timmons. Si je le traduis en français, c'est Femme à l'œil maléfique. Et effectivement, dans celui-ci, on est en plein voodoo. Et c'est un voodoo woman, comme ils les appelaient, explique de quoi elle serait capable de faire si l'homme à quoi elle s'adresse ne l'aime pas avec un amour sincère. Et les paroles expliquent tout. Je vais prendre quelques phrases tout à l'heure. Mais il y a une chose qui est assez intéressante, qui va revenir souvent dans les chansons. C'est ce qu'on appelle le goopher dust. C'est une poussière de goopher. Et c'est utilisé dans les pratiques anciennes de vaudou. Il s'agit d'un mélange d'ingrédients. Normalement, la terre de cimetière, habituellement l'ingrédient principal, avec des peaux de serpent et du soufre, qui étaient utilisés pour blesser ou troubler quelqu'un, ou même le tuer. Et effectivement, le mot goopher vient de l'Afrique, je pense que Raymond pourrait m'aider, qui signifie mourir. Aussi tardivement que les années 1930, goofering fut un synonyme régional pour les actes voodoo, et le sens du mot était élargi à des sortes de blessures, maladies et morts, pour inclure des sorts d'amour appliqués avec une intention de domination. Alors, si je lis quelques phrases, je suis une femme à l'œil maléfique, j'ai le cœur dur comme le pierre. Si tu ne m'aimes pas sincèrement, tu ferais mieux de t'éloigner de cette nana maléfique. Ma maman a étudié la sorcellerie, mon papa a étudié le vaudou aussi. Et avec tout ça, tu ferais mieux de partir en courant. On ne peut pas dire ce que je serais capable de faire. Et là, vraiment, la recette presque de vaudou, je le lis un petit peu plus près. Ben, je vais me broyer de la poudre pour saupoudrer sous ton lit. Tu vas te tourner et te retourner avec l'impression que tu brûles. Tu vas souhaiter être mort. Et si ça ne suffit pas, bébé, je peux faire bien mieux. Je jetterai un sort sur ton whisky et mettrai de la poussière de goopher dans ta soupe. Et elle répète, je suis une femme à l'œil maléfique. Tu ferais mieux de ne pas jouer avec moi. Je peux être douce quand je veux, mais maléfique quand il faut.
Some powder, sprinkle it beneath your bed. You be tossing, turning, think you're burning, wishing you were dead.
C'était donc Evil Eyed Woman. Alors là, Raymond, je vais te poser une question qui tombe sous le sens, si j'ose dire, et je pense que ta réponse peut être très très rapide. Est-ce qu'il y a une différence entre le vaudou et l'animisme?
Ben, absolument. Aucune. On a parlé de Holy Ghost, ça c'est pour le spirituel. Et puis il y a aussi le phénomène du zombie, qui est donc dans cette histoire de la vie courante. Vous savez bien que le zombie, c'est le côté qui est profane. Et l'exemple le plus marquant, c'est la vidéo de Michael Jackson, Thriller. Ça c'est vraiment un moment de vaudou, mais qu'on a essayé de cacher, c'est tout.
Merci pour la réponse, cher ami. Alors maintenant, je pense personnellement, j'ai bien étudié le vaudou avant d'organiser cette réunion. Il y a beaucoup de passages qui sont très durs et des sentiments difficiles à admettre. Par exemple, là, il y a un morceau qui traduit, à mon avis, beaucoup de jalousie ou de tromperie. Et tout à l'heure, Rose, tu parlais du goopher. Et là, tu peux en parler plus en détail. Le morceau s'appelle « Goopher Dust Swing ».
Mm-hmm. Qui a été chanté en 1937 par Lil Johnson. Effectivement, là, c'est une chanson où une femme parle à une autre femme, on présume une ex-copine, qu'elle accuse de voler son homme pendant son absence. Et ici, le gopher dust, donc la poussière gouffée, donc j'ai parlé tout à l'heure, a un grand rôle à jouer. Je pense que si je lis quelques phrases, c'est auto-explanatoire. Non, ça, c'est pas du français. On comprend bien. Donc, je lis. Tu as volé mon homme. Je suis polie parce qu'elle l'a appelé avec un mot pas très, très poli. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu ne vas pas t'enterrer comme ça. Je vais saupoudrer du gopher dust autour de ta porte. Tu as mangé et dormi ici dans mon appartement. Tu devrais être morte pour m'avoir trahie dans mon appartement. Et je pense que ça, en fait, ça explique la chanson, tout simplement.
You stole my maid. You're no good rat. You stole my maid. You're no good rat.
Alors maintenant, on va parler un peu d'un autre aspect. Jusqu'à maintenant, on a essayé de voir le rapport entre les religions catholiques, enfin monothéistes, et le vaudou, un petit peu l'opinion des Européens sur cette religion. Mais moi, ce qui m'a frappé en regardant tous ces bouquins, c'est l'importance des manifestations pratiques, si tu veux. Par exemple, l'importance des tambours. J'ai l'impression que c'est un instrument qui, dans le vaudou, est hyper sacré et qui est utilisé dans toutes les cérémonies. Il y a également, en ce qui concerne les danses, le fait de frapper avec les pieds sur le sol. Je pense que ça a une signification par rapport dans la culture africaine.
Oui, je vais vous lire simplement un petit mot de Art Blakey. Arthur Blakey, qui était un grand musicien de jazz, un batteur, un drummer, et puis aussi qui a étudié beaucoup les percussions afro-cubaines, les percussions africaines, et qui s'est rendu en Afrique. Il dit, on dit toujours qu'au moyen des tambours, on peut raconter une histoire. J'ignorais à quel point c'était la vérité jusqu'à ce que je me rende en Afrique. Là-bas, ils peuvent s'installer devant leur tambour et annoncer votre arrivée aux gens du prochain village. Ils peuvent leur dire de cette façon, comment vous vous appelez, combien vous mesurez et quelle est la couleur des vêtements que vous avez sur le dos. Les tambours, les gens pensent que ça ne sert qu'à faire beaucoup de bruit. C'est seulement que ce qu'ils disent, ce que les tambours disent, est plus difficile à entendre que ce que disent les instruments mélodiques. Comprendre leur langage exige une éducation, mais le message est là. Pour ceux qui sont capables de le saisir, il suffit d'ouvrir les yeux. Alors dites-moi, connaissez-vous un autre instrument aussi polyvalent dans le monde ?
Merci pour ces précisions, cher ami, qui nous éclairent un peu. Et alors, on va mettre un morceau qui, à mon avis, traduit... Mais là, je change un petit peu d'optique. Le vaudou, ça peut donner des conseils également, ou l'influence du mojo. Qu'est-ce que tu en penses, Rose ?
Not my mojo working. Oui, tu chantais en 1959 par Eddie Bo. Et il faut savoir ce que c'est qu'un mojo, d'abord. C'est un mot qui s'utilise même maintenant. C'est ce qui veut dire que c'est finalement, tout simplement, quelqu'un avec beaucoup de charisme, et ça fonctionne encore. Cette chanson a été chantée par beaucoup de personnes, d'ailleurs, depuis, par exemple, Elvis Presley, ou même Ike and Tina Turner, enfin, j'en saute. Donc, il se plaint donc que sa mojo ne fonctionne pas sur la personne adressée dans la chanson. Donc, il va en chercher une autre, plus forte, en Louisiane, qui mettra toutes les femmes à ses pieds. Alors, un mojo, c'est quoi ? Je ne sais pas si c'est un ou une. C'est une amulette prenant la forme d'un sac de flanelle ou parfois une autre matière contenant divers objets magiques ou spirituels. C'est une prière ou un sortilège qui doit être transporté sur le corps de l'hôte. Elle provient du folklore afro-américain voodoo et a été introduite par des diverses populations d'esclaves, venus effectivement de diverses régions de l'Afrique. Selon la tradition voodoo, la création de chaque mojo exige le savoir-faire spirituel d'un praticien spécialisé et est faite sur mesure pour chaque individu, en fonction de sa situation personnelle et ses objectifs. Par exemple, protection personnelle, guérison, réussite d'un projet, conjurer un sort ou attirer un amant, qui est le cas dans cette chanson. Et le sac peut contenir des suppliques accompagnées des prières, des racines, des os, plumes ou autres objets considérés comme ayant une pertinence spirituelle ou magique. Et il est créé avec des rites bien précis, avec des prières, des bougies, des encens, et pendant lesquels le mojo est nourri. Et il est nourri, par exemple, avec de l'alcool, parfum, eau ou fluide corporel, afin d'activer sa vie spirituelle. Et après sa création, il faut l'entretenir avec la nourriture et des prières pour le maintenir en vie. Encore une fois, New Orleans, dans le chanson, est le centre du vaudou. Il dit tout simplement, « Je vais descendre en Louisiane pour me chercher un gris-gris. Je vais avoir vous toutes les femmes sous mes ordres. »
Bye.
jusqu'à maintenant, on a regardé un peu le rapport des religions entre elles avec le vaudou. Et je pense qu'il faut quand même en venir petit à petit au sujet de cette interview, c'est-à-dire quelle influence le vaudou a pu avoir sur le jazz lui-même. Je pense que c'est important d'en arriver au sujet de l'interview. Au bout de combien ? 45 minutes ? À peu près. Bon. Donc, à mon point de vue, ce que j'ai noté, c'est que pour les Afro-Américains, le vaudou symbolise leur âme africaine, qu'ils habitent à la Nouvelle-Orléans ou à Chicago ou ailleurs, et que ce vaudou est le lien originel avec leur continent d'origine et leur culture. Et ça expliquerait qu'ils aient besoin du vaudou, ces Noirs-là, ces Afro-Américains, qu'ils aient besoin du vaudou pour se refaire une personnalité qu'ils avaient perdue dans le cadre de cette histoire absolument dramatique qui était l'esclavagisme. Alors, quel est le lien exact entre l'âme africaine et le vaudou? On en revient toujours au même.
Ben, simplement, c'est la mémoire du passé qui est essentielle avec la liberté pour recouvrer le statut d'humain et se délivrer de la chosification, de la réification. Voilà, c'est tout.
Oui, pardon.
Ben, je crois que je le dis, c'est un lien dans la mémoire. Et ce qui fait l'homme, c'est justement son passé, voilà, et ensuite son avenir. Et le vaudou marque ça aussi.
D'accord. Maintenant, on a un autre morceau qui, à mon point de vue, traduit l'esprit de vengeance, un certain cynisme. Et le morceau s'appelle « Somebody Done Hoodooed the Hoodoo Man ». À vous, Rose, de me corriger mon accent. Brillant.
Oui, la H, elle dit parfait, Georges.
Parfait. Merci. C'est pas la première fois qu'on me le dit.
Oui, c'est une chanson un peu complexe parce que « Somebody Done Hoodooed the Hoodoo Man ». Il faut savoir qu'il y a une différence entre le voodoo, qui commence avec un V, et le hoodoo, qui commence avec un H. Le voodoo est une vraie religion, et le hoodoo est tout simplement n'importe qui peut dire qu'il jette des sorts sur d'autres personnes. Et donc, je pense que dans cette chanson, c'est surtout ça qui est en jeu. Et le titre en français donne quelque chose comme « Quelqu'un a jeté un mauvais sort au Hoodoo Man ». Et en fait, c'est la discussion entre deux hommes qui décrivent un usurpateur, le Hoodoo Man. Donc, apparemment, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord avec sa manière de faire. Et il a été tué par un mauvais sort qui était, si on comprend bien, plutôt que du poison. Alors, donc, il dit dans la chanson, « Tu sais, cet homme qui a inventé ce truc pour le vendre aux gens de la ville pour qu'ils aient de drôles de rêves. » Et l'autre répond, demande, « Tu veux dire le Hoodoo Man ?»« Non, ce mec pensait qu'il était juste trop grand. » Le vieux Joe Hanna de la Louisiane, Joe Hanna étant le Hoodoo Man, un roi de hoodoo dans tous les domaines. Pauvre vieux Joe est quasiment mort. Quelqu'un a jeté un mauvais sort, donc, à Joe, ce Hoodoo Man. Et puis l'autre réponse, ce n'est pas autre chose qu'un retour de bâton. Et tout le monde en veut à Joe. Et quelqu'un a cuisiné des trucs dans une marmite, pas trop froid ni trop chaud. Ils ont fait tomber quelques gouttes dans le pot-au-feu de Joe. Maintenant, sa tête a explosé. Il ne sait plus quoi faire. Donc, il y avait effectivement une sorte d'agression entre le voodoo et le hoodoo, apparemment.
Hey, clowns, have you dug the latest jive on the Thursday hour?
No, man.
Well, they got him.
They got who?
You know that man that's been cooking up that jive, selling to these folks around town, making them have them funny dreams?
You mean the hoodoo man?
Yeah.
Oh, no. That cat thought he was just too grand.
Well, Gate, somebody done hoodooed the hoodoo man.
Smack me down with the story, Gate.
Old Johanna from Louisiana, a hoodoo king in every manner. But I found out without a doubt, the tables had turned on him. He ain't got a tooth in his head, poor Joe's almost dead. Somebody done hoodooed the hoodoo man.
10, 10, double 10, 45, 15. Joe can't drink no gin. Ain't nothing goes over the devil's back that don't buckle under his chin. His face looks just like gravel sand, and everybody's got Joe on the pan. Somebody done hoodooed the hoodoo man. Too cold and not too hot. They dropped a few drops in Joe's beef stew. Now he's blowing his top. He don't know what to do. They don't know who did it. They can't find out. But he done hoodooed his last hoodoo without a doubt. Somebody done hoodooed. Done hoodooed the hoodoo man.
On peut se demander maintenant. Je voudrais savoir ce que tu en penses, Raymond. Quel est le ressenti des Noirs vis-à-vis du vaudou? Est-ce que c'est un ressenti de peur, de crainte, d'espoir? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le vaudou et dans les morceaux qu'on passe, qu'on a passé et qu'on va passer encore, il y a parfois des aspects complètement négatifs. Là, on, par exemple, tu vois, on va mettre un morceau qui s'appelle « Elle m'a jeté un mauvais sort ». Et il y a un gros phénomène, une ambiance d'envoûtement et de méchanceté. Alors, quel est le ressenti des Noirs quand on parle de vaudou et comment est-ce qu'ils vivent cette ambiance?
Le ressenti des Noirs, il est partagé et c'est surtout vu du point de vue de l'œil du blanc. Je vous donne juste une petite une anecdote même sympa, c'est aussi une histoire. La Fisk University, au lendemain de la guerre de sécession, les Noirs qui n'avaient rien, qui donc étaient pauvres, ont décidé de pouvoir financer des écoles pour eux-mêmes avec une grande éducation. Mais ils n'avaient pas d'argent. Ce qui était en ce moment, disons un petit peu, toléré par les Blancs, c'était un petit peu les chansons gospel, néo spirituel. Le blues, voilà, il n'en voulait pas. Et le jazz n'était pas encore né. Donc, on a monté des chœurs, des chœurs vocaux pour chanter, pour pouvoir avoir un petit peu d'argent pour faire des concerts. Les Blancs leur ont dit, voilà, nous on vient à vos concerts, simplement, on ne veut pas avoir des attitudes africaines dedans. C'est-à-dire que cette manière de chanter dans les églises où vous tombez en transe, cette manière de vous tordre voilà, nous, on ne veut pas d'africanisme. Vous chantez. Et vous savez bien que l'un des meilleurs exemples de ce quartet vocal, c'est le Golden Gate Quartet. Ils ont une présentation parfaitement lissée, que tout le monde a acceptée. Et c'est ainsi qu'ils ont pu avoir un quartet de gens. Donc, c'était au prix. Il fallait donc sacrifier son africanisme pour pouvoir avoir de l'argent.
Donc là, on va vous mettre un exemple à mes auditrices, à mes auditeurs, un exemple de morceau musical, un morceau musical qui traduit un envoûtement et beaucoup de méchanceté.
Oui, c'est un pauvre monsieur qui se plaint qu'une dame a mis un sort sur lui. « She put the whammy on me ». Whammy, c'est un sort mauvais. Donc elle m'a jeté un mauvais sort. Et c'est l'histoire d'un homme ensorcelé par une vieille sorcière, j'allais dire, mais en fait c'est sa copine, qui lui jette un mauvais sort auquel il n'arrive pas à échapper. Elle a utilisé un os mojo pour qu'il marche comme un crabe et pour l'anéantir. Et c'est vrai que c'est vraiment plein, plein de méchanceté. Donc, je lis quelques phrases. J'ai rencontré une grosse femme avec les yeux en furie et la voix aussi dure que la pierre. Promis qu'elle m'attraperait et ne pouvait pas vivre sans moi, a dit qu'elle utiliserait son os mojo. Elle a jeté la malchance sur pauvre, pauvre, pauvre de moi. Je marche comme une crabe. Mon esprit est au point noir, au point mort. J'ai acheté un fusil de chasse, un grand long fusil de chasse. J'ai mis le canon sur sa tête. J'ai dit « Lâche-moi, et la femme, lâche-moi, ou je te fais passer le clair de lune à travers ta tête chauve. » C'est très beau comme expression.
I met a big woman with eyes of fury and a voice his heart stole. Vowed she'd get me, couldn't live without me. Said to you, a mojo ball. Ah! She put the whammy. She threw the whammy. She put the whammy. I bought a shotgun, a big long shotgun. I put the bell upside my head. I said, release me. I ain't lying, woman, release me. Oh, I'll blow the moonlight clean through your bald head. Oh, 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 ah! She put the whammy. Well, Lord, she put the whammy. Oh, oh, I'm telling you, she put the whammy. Oh, yes, she did on poor me. Oh, I'm walking sideways. Hey, hoo-da, hoo-da, my mind. Taught me about the evil, about life and its mystery. They didn't teach me about the women who deal in fools like me.
Alors je crois maintenant, mes amis et amis auditeurs, amis auditrices, qu'il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a étudié le vaudou par rapport aux religions monothéistes, le vaudou par rapport à la culture africaine, afro-américaine, et quelle est l'influence actuelle du vaudou, en particulier dans des villes comme la Nouvelle-Orléans ou le sud des États-Unis, bien entendu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, on peut en parler tout à l'heure, un musée du vaudou, et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'influence de cette religion dans cette région. Alors, Raymond, je te pose la question suivante. Situation actuelle du vaudou dans le sud des États-Unis et particulièrement à la Nouvelle-Orléans.
Un petit peu, c'est comme si on me demandait les liens entre le jazz et le vaudou. Parce que justement, ce lien vient de Congo Square, qui a commencé depuis le 19e siècle jusqu'à... Congo Square a fermé un petit peu avant la guerre de sécession. Et là, juste après, le jazz est né. Et quand le jazz naît, le jazz adopte justement les rythmes syncopés et justement de Congo Square parce que les tambours avaient été interdits et le jazz invente la batterie qui est une sorte de spectre d'un ancestral, encore le retour, le Holy Ghost, le Holy Ghost profane des tambours. Alors, le jazz, qui adopte donc ces rythmes syncopés, va transposer dans sa partie finale de ces morceaux qui sont très enlevés, ce qu'on appelle l'improvisation collective. Mais, en fait, qui se nomme Diablo ou Mambo. Parce que justement, dans cette improvisation, c'est le moment où, quand on va dans les rites vaudous, le clapotis des tambours, les battements des mains déclenchent ce qu'on appelle la transe chez un adepte ou chez des adeptes dans les rites vaudous. Et justement, on va essayer de transposer ça avec les instruments avant qui sont la clarinette, la trompette et le trombone. Ainsi donc, ces instruments se substituent aux tambours qui sont interdits et dans l'effervescence sonore de cette partie qu'on appelle échevelée, se répand comme le souffle des ancêtres. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Voilà.
Et alors, moi, maintenant, j'ai sélectionné, et j'espère que vous l'apprécierez également, un morceau qui traduit une certaine liesse, un certain amusement, mais également un certain envoûtement. Et ce morceau s'appelle Voodoo Boogie. Alors, Rose, si tu veux prendre la suite.
Oui, ce que Raymond vient de dire, mais c'est exactement là-dedans, en fait, la musique de toutes sortes. Là, c'est plutôt quelque chose d'heureux, cette Voodoo Boogie. Et c'est simplement quelqu'un, c'est l'histoire d'une soirée de fête à Algiers, qui en français serait Alger. C'est un quartier de New Orleans où effectivement il y avait beaucoup de Noirs qui habitaient, qui faisaient beaucoup de fêtes. Et donc la personne qui chante a subi l'influence d'une prêtresse voodoo. J'en parlerai tout à l'heure. Et je pense qu'on peut dire que le voodoo peut aussi rendre la vie agréable. Parce qu'il dit, je suis allée à Alger, je me suis amusée comme un fou. J'ai rencontré une prêtresse vaudou qui pouvait changer l'esprit du pauvre homme. Et donc cette prêtresse dit, mais tu as le boogie vaudou qui change l'esprit d'un pauvre homme. Et pour moi, c'est ce que Raymond vient de décrire, ce boogie vaudou. Quelquefois, il te met sens dessus-dessous. Quelquefois, il te fait tourner en rond. Tu as le boogie du vaudou.
Boy, walk on the floor. You got something nobody don't know. You got the voodoo boogie. The voodoo boogie. You got the voodoo boogie. Well, change the poor man
Eh bien, écoutez, tout ça, c'est bien beau, Mais on vient de parler, savoir quelle est l'influence actuelle dans le sud des États-Unis à la Nouvelle-Orléans. Mais il ne faut pas oublier qu'à la Nouvelle-Orléans ou dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup et il y a eu beaucoup de très bons musiciens de jazz. Et ce qui serait intéressant, à mon point de vue, c'est de savoir quels sont ou quels ont été les musiciens connus qui sont des adeptes du vaudou. Est-ce qu'un Louis Armstrong, par exemple, a été adepte, un Sidney Bechet, c'est-à-dire aussi bien les Noirs que les Créoles, puis tant d'autres musiciens de jazz?
Ben disons que tous les musiciens majeurs de jazz, surtout ceux qui sont nés à la Nouvelle-Orléans, sont tous des adeptes du jazz. On commence par Satchmo, Louis Armstrong, qui a été éduqué dès l'enfance, à 5 ans déjà, par sa grand-mère Joséphine, qu'il appelait Conjure Woman, c'est-à-dire que c'était un peu une sorte de prestidigitatrice, mais en gros, c'est un euphémisme, c'était en fait une sorcière. Voilà. Donc, elle faisait un peu des tours de passe-passe pour Armstrong. Ensuite, il y a aussi le grand Fats Waller, qui a été éduqué par sa mère. Il y a Brother Neville, qui a été éduqué par son grand-père, par sa grand-mère, qui l'appelait Mau Mau. Et puis, pourtant, lui, c'était un catholique invétéré. Et pourtant, il était vaudouisant et catholique. Sidney Bechet, qu'on connaît ici tous en France, dont le grand-père était un tambourineur à Congo Square. Et puis, il y a Papa Célestin, qui est un grand prêtre du vaudou. En gros, je vous dis que tous les grands musiciens, Cap Calore, Lionel Hampton, General Morton, tout ça. Et plus tard, même dans le rhythm and blues, on a Prince, Jimi Hendrix qui a fait le fameux Vaudechild. Et même Michael Jackson dans son fameux Thriller. C'est vrai que c'est un peu comme je vous l'ai dit. Devant, il est témoin de Jéhovah, mais en fait, c'est un vaudouisant. Voilà. En fait, tous les grands musiciens noirs et créoles, surtout les créoles d'origine française, sont tous des adeptes du vaudou.
Alors, à propos de créoles, là, j'ai reçu des notes, et à la Nouvelle-Orléans, c'est bien connu, il y a eu une très importante communauté créole. Et il semblerait, je dis bien il semblerait, cette communauté, éprouvait face à un certain rejet par rapport au vaudou.
Éprouvait un rejet.
Un rejet.
Oui, ça peut s'expliquer. C'est un petit peu la dialectique qu'il y a entre les ladins. Moi, je dis, en espagnol, ce sont les ladinos et les bossales. C'est-à-dire que quand un esclave arrive et qu'il dure très longtemps, il se casse, enfin, il se coupe un peu de l'Afrique et il commence à être intégré. À la Nouvelle-Orléans, on a eu tous ces noirs qui se sont créolisés, qui aimaient l'opéra, donc qui avaient un petit peu des lointaines idées de l'Afrique. Et puis comme la traite, elle venait tout le temps par vagues, surtout la traite illégale, ça amenait toujours des nouveaux esclaves qui étaient toujours africanisés. Et le jazz est né justement dans cette confrontation entre des grands musiciens créoles, noirs, qui étaient un petit peu plus francisés, et les musiciens qui arrivaient d'Afrique avec tout leur tambour, avec leur rythme. C'est là où ça s'est passé. Ce qui fait que lorsque les musiciens ladins étaient un peu plus noirs, non, plus blancs, et les musiciens bossales plus noirs, aujourd'hui, il y a une tendance qui s'est inversée. Maintenant, quand on voit tous les grands intellectuels, tous les grands musiciens du jazz, ils disent toujours un retour vers le passé, back to my roots. En fait, ils se réclament maintenant d'une africanité, et ce sont les Américains de basse souche qui ne savent rien, qui ne sont pas allés à l'école, qui veulent au contraire devenir blancs. Donc il y a une sorte de chiasma, une sorte de aujourd'hui.
D'accord. Et alors moi j'avais noté également un mouvement qu'il y a eu, c'est-à-dire qui s'appelait le Revival Zion. Qu'est-ce que c'était exactement?
Revival Zion. Ben, Zion, d'abord, vous savez, bon, ça, c'est ce que la religion protestante a produit auprès des Noirs américains, surtout en Jamaïque. Voilà. Ce jeu, c'est un petit peu une sorte de protestantisme à la mode animiste. Voilà.
On va enchaîner avec un morceau qui traduit une certaine inquiétude. Qui s'appelle, je l'aime bien ce morceau, il est très beau, par Muddy Waters, Louisiana Blues.
C'est vrai que c'est sympa ce morceau. Ah bon? Oui, c'est sympa ce
Il
morceau.
Est très beau,
c'est, oui,
ce
c'est très beau. Oui, qui est de 1950. Et tout simplement, on retrouve les mêmes choses. On trouve le mojo, on trouve New Orleans. C'est un petit peu une concentration de tout ce que l'on a dit pour l'instant. Là, c'est l'histoire d'un homme qui va descendre à New Orleans pour se procurer un mojo, pour conquérir toutes les femmes et leur montrer comment un homme aime être traité. Autrement dit, les femmes, vous m'obéissez, et puis c'est comme ça. C'est quand même un peu macho tout ça, hein, je trouve.
Un peu beaucoup.
Un peu beaucoup, oui. Donc, il dit, je descends à New Orleans. C'est du français. Je descends à New Orleans, me chercher un mojo hand. Je vais montrer à vous, toutes les belles femmes, exactement comment traiter votre homme. Eh bien, je ne sais pas si qu'il va vous voir à New Orleans, mais voilà.
Going down in Louisiana, baby, behind the sun. I'm going down in Louisiana, honey, behind the sun. You know, I just find out my trouble just begun. I'm going down in New Orleans, get me a mojo hand. I'm going down in New Orleans, get me a mojo hang.
Oh, take me with you, man, when you go.
I'm gonna show all you good-looking women just how to treat your man. Let's go back to New Orleans, boys.
Je vais encore revenir une fois de plus sur la même question, Raymond. Est-ce que dans l'âme d'un noir, par exemple, qui habite à la Nouvelle-Orléans, qui vit à la Nouvelle-Orléans, qui a été petit-fils ou fils d'esclave, qui a donc connu des périodes extrêmement difficiles, qui a perdu son originalité, sa personnalité en étant transporté d'Afrique en Amérique, est-ce qu'il y a un tiraillement entre la fidélité à la culture d'origine, donc le vaudou, et l'orientation vers des croyances occidentales, catholicisme, etc., etc.
Ben, les tiraillements, les bourrelements dont tu parles se traduisent par une culture du double sens. C'est ça qui est très fort dans tous les Noirs antillais, depuis l'arc des Antilles jusqu'à la Nouvelle-Orléans. C'est la culture du double sens qui est marquée aussi par cette culture française grivoise, parce qu'il faut dire que les anglo-saxons ont toujours taxé les Français, les Latins, d'être très, voilà, très lâches, quoi. Voilà. Donc ils aiment bien, ils sont grivois, ils aiment bien tout. Et alors que les Anglais sont très puritanisme, vous savez bien. Alors justement, c'est une culture du quiproquo, de la contrepétrie, qui rend bien le burlesque, le grivois dont les Anglo-Saxons, je vous l'ai dit, taxent les Français. Et en même temps, c'est une passerelle qui mène au syncrétisme. C'est aussi une forme de syncrétisme. Maintenant, ce que je voulais aussi dire, il faut dire que déjà, au départ même, il y a déjà un tiraillement. Rappelez-vous que les esclaves qui débarquaient aux Antilles, aux Amériques, étaient baptisés. Parce qu'il fallait purifier leur âme. Donc, si j'ose faire une comparaison, c'est déjà leur carte de séjour d'entrée. Ils ne pouvaient pas rentrer dans les îles sans avoir le carte de séjour du baptême. Mais on leur interdisait de communier. Voilà. Donc, on était chrétiens, mais on ne peut pas prendre le corps du Christ. Ils allaient à l'église pour écouter tout ce qui venait de la Bible. Mais quand ils sortaient, ils se gavaient, ils avaient des repas coupures en l'honneur de leur divinité. Et ça a toujours marché jusqu'à maintenant.
D'accord. On va enchaîner encore avec un petit morceau qui, à mon point de vue, traduit la rupture, la tristesse, l'abandon. Et le morceau s'appelle « Oudou Blues ».
Oui, qui était chanté en 1960 par Lightning Slim, le blues du hoodoo. Alors c'est du hoodoo et non pas du voodoo, donc ce n'est pas la religion. Alors ici, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est un conseil d'un ami qui est le hoodoo man, qui explique à son copain ce qu'il faut faire quand sa femme commence à courir après d'autres hommes. Quand on écoute toutes ces chansons, les femmes étaient des coureuses invétérées, je crois. Il faut la quitter parce qu'elle est une sorcière qui a jeté un sort sur lui. Et on voit qu'il a un rôle de conseil un petit peu social, peut-être à la place des parents, j'en sais rien, dans un cas pareil. Je lis quelques phrases. Alors, quand ta femme commence à agir bizarrement et commence à courir à droite et à gauche, tu ferais mieux de te trouver quelqu'un, car elle va te laisser tomber. Laisse-la partir, mec, aussi vite que tu peux, parce que cette petite sorcière va jeter un sort au hoodoo man. Elle a pris tout mon argent et l'a dépensé autour de la ville, et quand je veux l'aimer, mec, elle est introuvable. Alors je marche et je pleure, séchant mes larmes avec ma main, parce que cette petite sorcière, mes amis, a jeté un sort sur le hoodoo man.
Now when your woman start acting funny and begin to run around, you'd better get you somebody, cause she's fit to put you down. Better let her go, man, just as quick as you can, because that hoodoo girl is going to hoodoo the hoodoo man. You know my woman got me on a one-note. That's something I can't understand, how I look at her running out with some other man. After all, I did all in this world I can. But this little hoodoo girl, she done hoodoo the hoodoo man. Well, blow your harmonica, son. Yeah, she got me hoodoo. She take all my money and spend it all over town. And when I want to love a man, she ain't can't be found. I walk and cry, drying tears away with my hand. Because that little hoodoo girl, people, she done hoodoo the hoodoo man.
Voilà, c'était sur du blues. C'est un... Moi, j'adore ces morceaux, je le dis carrément. Alors maintenant, on va... On a parlé des manifestations à la Nouvelle-Orléans du Vaudou et des prêtresses, parce qu'elles avaient une grande importance. Et il y avait une prêtresse qui a été très célèbre, qui s'appelait Marie Laveau. Et il y a un morceau de musique que je trouve absolument fabuleux, qui s'appelle Marie Laveau, tout simplement, et interprété par Oscar Papacélestin. Alors, Oscar Papacélestin, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, lors de la 101e ou de la 11e, je ne m'en rappelle plus. Et c'est un des orchestres typiques, Nouvelle-Orléans, qui a des harmonies somptueuses et qui est absolument, pour moi, formidable. Alors, donc, là, je vais vous mettre. Notre technicien, Mathieu, va vous mettre Marie Laveau. Malheureusement, c'est dommage parce que ce morceau dure 6 minutes 36. On va donc l'interrompre un petit peu au milieu. Mais auparavant, je crois que Rose ou Gary peuvent vous dire deux mots de Marie Laveau, puisqu'ils ont été à la Nouvelle-Orléans. Et je crois que vous avez vu le musée du Vaudou.
Oui, bien sûr, le musée du Vaudou, oui. On a vu aussi le tombeau de Marie Laveau, qui était quelqu'un de très, très influenceuse à New Orleans. Et même maintenant, son tombeau, Gary va en parler. Hein.
Mais son tombeau est donc situé dans le cimetière. Dans le cimetière numéro 1 de New Orleans, qui est au nord de Rampart Street. Et ce tombeau est constitué d'une sorte de mausolée en hauteur, puisque dans ce cimetière, on n'enterrait pas les morts. Donc c'est une sorte de cabane en béton qui est couverte de graffitis, qui a changé plusieurs fois de couleur, et où les gens apportent des gris-gris ou des oursons, des joujoux de toutes sortes pour lui rendre hommage. Cette Marie Laveau est morte en 1882, quelque chose comme ça, et depuis, donc, elle est toujours aussi vénérée.
Oui. Alors, donc, ça, ce n'est pas le musée, mais c'est effectivement le tombeau de Marie Laveau. Il y a beaucoup de choses. Et ils n'enterrent toujours pas, d'ailleurs, les gens à cause des inondations. Mais Catherine était un bon exemple. Mais le musée, il y a deux musées de Vaudou. Il y a un qui est uniquement, je pense, touristique, où le monsieur raconte pas mal d'histoires un petit peu douteuses, y compris le fait qu'il vivait avec 6 pitons qui se promenaient dans son appartement au-dessus. On se permettait de douter un peu. Mais on a vu le vrai prêtresse voudou avec... Ce n'est pas vraiment un musée, c'est le temple du voudou. Elle s'appelle la prêtresse Myriam et elle a un rôle assez remarquable, même maintenant, aujourd'hui. Apparemment, c'est toujours très fort. Les gens viennent, elle les marie, donc elle a un rôle important et puis beaucoup, beaucoup de rôles de conseil. Elle est dans son petit temple. Elle est entourée d'une quantité de choses invraisemblables. Et c'est la sage qui puisse aider les gens en peine ou, effectivement, comme j'ai dit, les mariés. Donc ça marche encore bien aujourd'hui.
She made a fortune selling voodoo and interpreting dreams. She was known throughout the nation as the voodoo queen. Folks come to her from miles and miles around. She'd show them how to put that voodoo down. To the voodoo lady, they would go. Rich, educated, ignorant and poor. She'd snap her fingers and shake her head. Then tell them about their lovers, living or dead. An old, old lady named Widow Brown, she asked why her lover stopped coming around. The voodoo gazed at her and squalled. I seen him kissing a young girl way up in Shakespeare's park. Standing there an old tree in the dark. She lost her speech. Tears start rolling down her cheeks. She says, hush, my darling, don't you cry. I'll make him come back by and by. Now sprinkle this snake dust all over your floor. He'll come back Friday morning when the rooster crows. Help them in her hand. New Orleans was her promised land. Quality folks come from far and near. This wonder woman, far to hear. They were afraid to be seen at her gate and would creep through the dark to hear their fate. Pulling down veil over their head, they would tremble to hear what Marilla would say. Oh, Marilla, oh. She made gree-gree with an old ram horn, stuffed with feathers and shucked from a comb. A big black cattle and a catfish fin made a man get religion and give up his sin. Oh, Marie Laveau. Rich on voodoo in New Orleans. Sad news got out one morning at the dawn of day. Marie Laveau had passed away in St. Louis Cemetery. She lays in a tomb. She was buried at night on the waste of the moon. Oh, Marie Laveau. Down.
Ce très beau morceau s'appelait donc Marie Laveau, et je crois que Madame Pascal Rose veut rajouter un petit commentaire.
Oh, un petit, il y a tellement de choses à dire sur Marie Laveau que c'est difficile. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle était la reine du voodoo, reconnue apparemment partout dans les États-Unis, seulement, pas seulement dans les États du Sud, de toute source sociale. Elle était très, très appréciée, mais c'était une catholique fervente. Et donc, du coup, elle avait ce mélange. Et à un moment donné, Papa Célestin dit dans la chanson qu'elle avait ses mojos, c'est tout ce que l'on veut de voodoo, mais elle poussait les gens à prendre leur religion catholique. Alors, c'était très intéressant de voir. Et effectivement, quand elle s'est enterrée dans son tombeau, il y avait, soi-disant, un ghost, un fantôme qui se promenait après. Et en fait, c'était sa fille qui le ressemblait beaucoup et qui a pris son nom et a continué son travail après elle. Et c'était vraiment très, très, très intéressant. Et dans la chanson, il paraît un petit peu de cette dame qui était hors commun. Elle a fait fortune en vendant le voodoo et en interprétant les rêves. Connue dans tout le pays comme la reine du voodoo, les gens venaient la voir même de très loin. Elle leur montre ce que c'était le voodoo. Les riches, les éduqués, les ignorants, les pauvres, elle claquait les doigts et secouait la tête, puis leur donnait des nouvelles de leurs amants, vivants ou morts. Et donc, à une vieille veuve qui pleurait parce que son copain était parti, elle a dit « Ma chérie, ne pleure pas, je le ferai revenir bientôt. Saupoudre cette poussière de serpent partout sur ton sol. Il reviendra à vendredi matin quand le coq chantera. » Et puis, il continue à dire, Papa Célestin, « Marie Laveau les avait dans sa main. New Orleans fut sa terre promise. Les gens de qualité venaient de partout. » Pour écouter cette femme magique. Ils avaient peur d'être vus à sa porte et glissaient silencieusement dans le noir pour entendre leur destin. Tenant des voiles noires sur leur tête, ils tremblaient d'entendre ce que Marie dirait. Donc, effectivement, tout le monde venait, mais un petit peu en secret, si je comprends bien. Et elle fabriquait des mojos avec une vieille corne de bélier remplie de plumes et de cosses de maïs. Font pousser un homme à adopter la religion et à renoncer à ses péchés. Donc il y a un drôle de mélange dans cette dame. Et elle avait une sacrée réputation parce que elle était d'abord coiffeuse en fait. Elle devait être efficace parce qu'elle avait des gens riches de New Orleans qui venaient de se faire coiffer. Et au fur et à mesure, pour soulager leur peine de cœur, elle leur proposait peu à peu ses gris-gris, ses poudres, ses prédictions et autres services supposément liés au voodoo. Et elle est devenue riche et célèbre pour ses talents, pour tout ça. Et donc, elle avait des mystérieuses réunions le soir, réputées de finir en orgie clandestine, où elle s'affichait en dansant avec un long serpent nommé Zombie. Elle avait son piton. Et des danseuses presque nues. Donc, le voodoo avait beaucoup de choses intéressantes pour le New Orleans, apparemment.
Ouais.
Voilà.
Voilà. Et toi, Gary, toi qui as été souvent à la Nouvelle-Orléans,
Je me promenais chez elle non plus, mais enfin.
Non.
Donc il y avait deux sortes de musées. Il y en a un qui est un vrai et un faux. Il y en a un, c'est un houdou. C'était le premier musée dont Rose a parlé, avec des serpents à l'étage, qui est effectivement intéressant à visiter, mais qui n'a qu'un but bassement commercial. Tandis que quand on se promenait dans le musée numéro 2, c'était en réalité une officine où il y avait des mariages. Il y a Elvis Presley, je crois, s'est marié là-bas, et d'autres vedettes américaines. Ce que l'on pouvait y voir était beaucoup plus religieux quand même. Voilà.
D'accord. Oui, c'était intéressant. Et tout à l'heure, Raymond, tu parlais de Congo Square, mais il y a toujours et encore beaucoup de choses qui passent à Congo Square. Évidemment. Parce que c'est dans le quartier Trémé dont il y avait cette série fascinante sur le New Orleans. Et il y a plein de choses.
Il faut dire que quand on parle de Congo Square, on l'a rebaptisé maintenant Park
Louis Armstrong. Et c'est drôle parce que les New Orleanais ne sont pas très supportifs de Louis Armstrong.
Oui.
Parce qu'ils disent qu'il est parti vers les Blancs et qu'il a laissé tomber New Orleans. Alors que Ella Fitzgerald, c'était quelqu'un de très, très, très adoré là-bas, parce qu'elle a fait beaucoup pour la ville. Donc, il y a toutes ces choses qui sont contradictoires, intéressantes.
Beaucoup de jazzmen après ont critiqué le oncle-tomisme de Louis Armstrong. Vous savez
Oui, tout à fait.
Mais j'aimerais qu'on dise un petit mot sur Congo Square, justement. Parce que, vous savez, moi, je l'appelle la cour des miracles. Voici un lieu d'acquisition et de vente de captifs. Le matin et le soir, ça devient un lieu de musique captivante. C'est ça le jazz. C'est le miracle qui s'est imposé là. C'est ça. Et moi, je ne vois aucune place. Je sais pas. Ça n'existe pas ailleurs, ça.
Et je trouve que c'est cette ambiance de l'esclavisme, de l'esclavage dans le passé, je trouve qu'on le sent couler un petit peu partout. Ouais. C'est vrai que, je ne sais pas si ce n'est pas Bourbon Street, enfin des rues, on voit encore le bâtiment où on les vendait. Et c'est marqué dessus dans la pierre, donc on arrive à voir encore un petit peu. Et c'est assez glaçant d'ailleurs,
ouais, c'est
tout à fait glaçant.
Je crois que le temps qui nous est imparti va bientôt toucher à sa fin et on pourrait terminer avec un très très beau morceau qui s'appelle Song of the Jumbies, qui est à mon avis très chouette. Et le critère principal que j'ai relevé, c'est le mystère. Peut-être même l'hallucination, qui est quand même un des critères du vaudou, si on peut dire.
At night when you are asleep, sometimes you hear the jumbies play. Whatever vigil you keep, you'll never hear this song by day. You can't remember if you heard right. It happens in the dead of the night. And when the morning dawns, you'll hear this song and sing it the whole day through. Zai-yai-yai. Zai-yai-yai. Ai. That's what the jumbies say. Zai-yai-yai. Zai-yai-yai. Ai-yai-yai. That's what the jumbies say. That's what the jumbies say. That's what the jumbies say. Le soir le wapi dormi ou cap tondé, jambi chanté ou pas qu'on côté sorti, l'irait avec ou toute la nuit ou pas qu'on est sous tant de libyen, l'irait avec ou dans la nuit et le matin vini, ou attendez yo dire et ou chanter toute la zone. Zai, ai, ai. Zai, ai, ai. Ai, ai, ai.
That's what the jumbies say. That's what the jumbies say. Zai, ay, ay. Zai, ay, ay. Ay, ay. That's what the jumbies say.
Oui, je vais juste dire quelque chose pour expliquer ce que c'est qu'un jumbie. C'est une sorte d'esprit ou démon mythique d'une personne maléfique morte et se trouve dans le folklore de certains pays des Caraïbes. Parce que la moitié de la chanson est en caribéen. Oui. Jumbie est un nom générique donné à toutes les entités maléfiques. Il y a de nombreux types de jumbie reflétant l'histoire complexe des Caraïbes ainsi que leur source ethnique venant de l'Afrique, des Amérindiens, de l'Inde, de l'Asie, des Pays-Bas, de l'Angleterre et même de la mythologie chinoise. Et les cultures différentes ont donc des concepts différents des jumbies, mais l'idée générale est que les personnes qui ont été maléfiques pendant leur vie sont destinées à devenir les instruments du mal, les jumbies, dans la mort. Contrairement au folklore des fantômes qui représentent une créature floue et brumeuse, le jumbie jette une forme d'ombre sombre. Et voilà.
Voilà, eh bien, amis auditrices, amis auditeurs, cette interview touche à sa fin. Et moi, je voudrais remercier très sincèrement Raymond Agnésan pour toutes les précisions qu'il nous a données, tous ses souvenirs, etc., et toutes ses connaissances. Je voudrais remercier également infiniment Rose et Gary Pascal pour leur travail énorme de traduction, de commentaires, et ça a été vraiment passionnant. Et puis, bien entendu, notre technicien Mathieu. Alors, Mathieu, je le pratique tous les 8 jours, à peu près. Il me supporte, d'ailleurs, il a un mérite extraordinaire. Et je te remercie, Mathieu, pour la perfection de ton intervention. Alors, je voudrais terminer avec un souvenir. J'ai vu dans un article d'une revue gynécologique, il y a très longtemps, j'ai vu un article qui disait ceci. Un bison futé qui drague une vache folle, ça ne donnera jamais un vaudou. C'est une boutade de très mauvais goût, mais je voulais la sortir. Voilà, j'ai tout terminé. À mes auditrices, à mes auditeurs, à bientôt. J'espère que vous avez été contents et je vous remercie de votre attention.